Bonjour à toutes et à tous. Regard sur l'eau et sur l'architecture. Aujourd'hui, dans ce mag, on vous proposera deux reportages autour de l'eau et de portraits de ceux qui tentent d'en prendre soin et de mieux comprendre ses enjeux. L'un de Marie-Laure Rémézy, gérante d'Odyssée à Caylus, autour de la qualité et des process de cet élément H2O. Et l'autre, autour de l'adaptation des plantes à la sécheresse et des apprentissages que nous pourrions en tirer avec Jérôme Garcia du Conservatoire Botanique National de Pyrénées et de Midi-Pyrénées. Avant ça, on vous parle architecture, un coup d'œil sur la maison des loups de Caylus.
CFM.
À la découverte du métier d'archéologue du bâti et de ses méthodes de fouille sous le prisme d'un édifice emblématique du village de Caylus dans le Tarn-et-Garonne. Léa Gérardin-Macario est archéologue du bâti au service inventaire du patrimoine du pays Midi-Quercy.
Alors, nous voilà en fait au rez-de-chaussée, dans une partie du rez-de-chaussée qui n'est pas la partie qui donne sur la rue, qui est très ouverte avec des grandes baies de boutiques comme on a l'habitude de les voir dans les maisons médiévales, mais la partie arrière qui est semi-enterrée, qui est entre la cave et le rez-de-chaussée, qui est probablement un espace utilitaire, peut-être de stockage. Enfin, c'est l'une des questions qu'on se pose en travaillant ici. En fait, comprendre quelle est la fonction de cet espace, puisqu'il est semi-enterré, donc presque aveugle en partie, mais il a quand même du côté de l'église qui donne sur ce qu'on appelle le portail obscur à Caylus, qui est ce petit passage entre la façade de l'église et la maison, qui est couvert par une sorte de balcon ou de galerie. Mais on voit qu'au Moyen-Âge, c'était probablement ouvert quand même par une grande porte, qui a un grand arc brisé comme les baies de boutique qu'on trouve sur la rue droite, mais on comprend pas très bien sa fonction à cette grande porte, parce que avec le niveau de la rue ça fonctionne pas bien. Enfin, il y a une interrogation sur la fonction de cette porte et donc sur la fonction de cet espace. À quoi ça sert ici dans la maison, qui est une grande maison avec des grandes boutiques côté rue droite? Est-ce qu'on pourrait envisager de ce côté-là un espace de stockage comme on le fait aujourd'hui dans les commerces? Donc voilà la question principale. Le sondage, les deux sondages, là il y en a qu'un seul qui est réalisé pour l'instant, il y en a un deuxième qui va débuter sous peu, sont motivés parce que le niveau de sol aujourd'hui est en terre battue.
Voilà, on s'installe avec notre petit chapelet d'outils, la truelle bien sûr, on empoigne la pelle et là c'est parti. Il faut bien dégager parce que là par exemple on est passé d'un niveau tout noir, et là on voit que hop, on est en train d'arriver sur un niveau marron clair qui est assez meuble aussi, mais qui est vraiment différent et dans lequel il y a plein d'éclats de calcaire. Donc là on est vraiment passé à autre chose, c'est une autre couche stratigraphique. Et là par exemple, ça c'est du mobilier qui est dans la couche brun clair que je suis en train de dégager, apparaît une céramique où on voit apparaître un décor vert et un peu beige. Voilà, donc ça va être intéressant. Typiquement, ça va être un marqueur chronologique intéressant. On trouve là un sol appareillé, donc des grands moellons rectangulaires, allongés, qui sont posés les uns à côté des autres de manière assez régulière. Bon, on n'en voit pas beaucoup hein, parce que la fenêtre n'est pas très grande, mais on imagine, en tout cas on va dire qu'on en voit 6, et ils forment des sortes d'arêtes de poissons. Ils sont posés comme ça de biais les uns à côté des autres. Il y a un registre au milieu qui ferait penser par exemple à la colonne vertébrale du poisson, et de l'autre côté ça repart de biais dans l'autre sens. Tout ça est bien construit avec du mortier, avec c'est pas tout à fait plat, mais c'est pas trop mal. Donc là vraiment on a l'air d'avoir un sol de circulation
qui pourrait être médiéval et qui pourrait être le sol de circulation de cette pièce du milieu du XIIIe siècle. Voilà, bon, alors là, comme on n'en voit pas beaucoup et qu'on n'a pas de mobilier associé, on ne peut malheureusement pas dire, c'est sûr, c'est du milieu du XIIIe siècle. Donc ça va rester une question peut-être en suspens, c'est pour ça qu'on va ouvrir un deuxième sondage plus loin dans la pièce, près d'une cloison du milieu du XIIIe siècle, que là on a daté par dendrochronologie. Donc là, on va ouvrir un sondage à côté de cette cloison et essayer de voir si on retrouve le même sol avec des arêtes de poissons de l'autre côté de la pièce. Là, ça nous confirmerait qu'on est peut-être sur le sol du milieu du XIIIe siècle.
Regard sur l'architecture. Dans ce mag, on était à la maison des loups de Caylus. Après la musique, on vous parle d'eau, H2O, qualité et process.
Like CFM Caylus, le mag.
Premier composant du corps humain, riche de ses différentes qualités, l'eau est un élément déterminant pour l'industrie. Portée et légitimée par une double compétence en pharmacie et ingénierie de l'eau, Marie-Laure Rémézy a à cœur de prendre soin des populations en prenant soin avant tout de l'eau, de la prévention des risques jusqu'à la synthèse des médicaments. Nous sommes à Caylus, dans le Tarn-et-Garonne, devant le bureau d'Odyssée.
Donc, l'eau est la matière la plus utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Il faut plusieurs milliers de litres d'eau pour fabriquer un gramme de médicament. Elle est nécessaire à toutes les étapes de synthèse d'un médicament, quelle que soit sa forme galénique, que ce soit un comprimé, un collyre, un sirop, un médicament injectable ou même une gélule. Parce que l'eau est utilisée pour la fabrication et la dilution des principes actifs. Elle sert aussi au nettoyage et au rinçage des machines et à la décontamination des équipements. Quel que soit le lieu de fabrication, les eaux pharmaceutiques doivent être produites à partir d'eau potable. Donc en France et dans les pays développés, ça pose pas trop de problèmes parce que l'eau qui arrive dans les usines est déjà potable. Par contre, dans les pays en voie de développement, où il y a de plus en plus de fabrication de médicaments, que ce soit au Brésil, en Chine, en Inde ou autre, il faut répondre à la norme de l'Organisation mondiale de la santé s'il n'y a pas de norme nationale concernant la potabilité de l'eau. Les eaux pharmaceutiques, en fait, leur particularité, c'est qu'elles ne doivent contenir aucune pollution, ni microbiologique, bien sûr, ni ionique, ni organique. Du coup, il faut purifier l'eau potable pour la rendre conforme aux normes pharmaceutiques. Donc, pour ce faire, il y a différents traitements qui sont possibles. Il y a d'abord ce qu'on appelle les pré-traitements, qui permettent d'éliminer par filtration plus ou moins fine les particules. Puis, on adoucit l'eau pour enlever le calcium et le magnésium. On peut aussi éliminer le chlore ou les gaz, comme le CO2. Et une fois qu'on a fait cette phase de pré-traitement, après, on va purifier, à proprement parler, l'eau. Soit par osmose inverse, soit par électro-déionisation ou distillation. Et là, on obtient donc de l'eau purifiée ou de l'EPPI. Il ne reste vraiment plus que de l'eau H2O dans les eaux pharmaceutiques. Donc, notre rôle à nous, chez Odyssée, c'est d'intervenir sur ces installations à tout moment, où on étudie les besoins du client, par exemple, quel type d'eau il va avoir besoin pour fabriquer son médicament, quel traitement il va falloir mettre en place pour purifier correctement son eau, etc. On va dimensionner les équipements et concevoir l'installation. Donc, tout ça, ça se fait dans nos bureaux à Caylus. Et après, on va sur site. C'est une phase un peu plus technique où là, on va réaliser le montage des installations qu'on a conçues. On va mettre en service. Donc, il y a la mise en service hydraulique avec les vannes, les robinets, etc. Mais il y a aussi toute la mise en service automatique. Donc, les eaux minérales, en fait, elles sont aussi traitées, ce qui peut surprendre. Mais en fait, elles sont traitées pour éliminer les éléments indésirables qu'elles peuvent contenir. Donc, par exemple, le fer, parce qu'il y a des eaux minérales qui sont très chargées en fer. Et si on mettait l'eau en bouteille, ben on aurait de la poudre de rouille orange au fond de la bouteille. Donc, ce ne serait pas très vendeur. Et en plus, ça donnerait un goût métallique à l'eau. Donc, en fait, on l'élimine. Ça vaut aussi pour le manganèse, pour le CO2, parce que si on veut faire de l'eau plate, ben il faut la dégazer avant. Ça vaut pour l'arsenic, le fluor, le bore, etc. Donc la particularité des eaux minérales, c'est que il est interdit de rajouter des traitements qui modifieraient leur composition. Les seuls traitements qui sont possibles, c'est la filtration ou la décantation. Tout ça pour dire que l'eau est une ressource précieuse car limitée, que chacun, chacune, nous consommons des milliers de litres d'eau sans forcément le savoir. C'est ce qu'on appelle l'empreinte eau, qui est valable pour tout, que ce soit la nourriture, l'eau de boisson, par exemple, avec les eaux minérales, les objets, les vêtements, mais aussi les médicaments. Et ça, c'est sans parler de la problématique du traitement des molécules chimiques dans les eaux usées, qui doivent être éliminées dans les stations d'épuration avant d'être rejetées au milieu naturel. Du coup, soyons vigilants et prenons soin de notre ressource.
Marie-Laure Rémézy, gérante d'Odyssée à Caylus dans ce mag, pour des portraits autour de l'eau après Carly Simon. On vous parle de l'adaptation des plantes à la sécheresse.
CFM Caylus, le mag.
En réaction au manque d'eau, les végétaux ont adopté différentes stratégies d'adaptation biologique, morphologique ou génétique. Avec le réchauffement climatique, les plantes peuvent donner des idées pour mieux retenir l'eau et favoriser l'ensemble de la biodiversité. Jérôme Garcia, chargé de conservation au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, les observe pour mieux comprendre.
Parmi les adaptations génétiques, on va trouver des adaptations plus de type biologique à travers des cycles de vie courts des plantes. On va appeler ça des plantes annuelles qui, à la saison favorable, vont germer, très rapidement fleurir, produire des graines et lorsqu'il va commencer à faire sec, vont dépérir et la seule façon pour la plante de résister dans le milieu, ça va être sous forme de graines et ça va constituer la banque de graines qu'on va trouver dans le sol. Parmi d'autres adaptations, il y a tout simplement aussi la chute des feuilles. C'est une façon aussi pour la plante qui transpire par ses feuilles de limiter cette transpiration, donc cette perte d'eau en faisant tomber ses feuilles. Elle va conserver l'eau pour elle. Il existe également des adaptations morphologiques liées par exemple à la forme des feuilles. Ça peut être aussi la présence de duvet sur les feuilles. Ça peut être aussi un port de la plante. La plante peut être recroquevillée sur elle-même. Elle peut développer aussi des épines. C'est une façon aussi pour les herbivores de ne pas pouvoir la consommer. Et donc, de cette façon, elle garde aussi, elle se protège et elle garde aussi son eau. Certaines plantes vont développer des feuilles avec beaucoup de plis. Donc, c'est aussi des espèces de graminées, par exemple, qui évitent que l'eau s'évapore. Elles vont maintenir une espèce d'atmosphère humide dans leurs feuilles, aux abords de leurs feuilles, et certaines même vont diffuser des arômes, des essences aromatiques qui vont permettre d'abaisser très près de la feuille la température. Certaines plantes développent aussi sur la face supérieure des feuilles, sur leur cuticule, une espèce de cire. C'est ce qu'on voit sur certains chênes, les chênes verts. On a comme ça une espèce de pellicule protectrice qui va limiter l'évaporation. Ça se trouve beaucoup chez les espèces méditerranéennes. Certaines plantes de haies qui ont aussi un feuillage qui est persistant vont avoir des feuilles qui ont cette couche cireuse pour leur permettre de résister. Alors ça peut être au soleil intense, à la chaleur, à la sécheresse, mais parfois pour les plantes méditerranéennes ou des côtes, des plantes côtières, de résister aux embruns aussi. Parmi les adaptations morphologiques, il y a tout simplement le fait également, si c'est pas au niveau foliaire, mais ça peut être au niveau racinaire, d'aller puiser de l'eau plus en profondeur, et donc elles vont développer des racines en profondeur. Il va y avoir des racines plus en surface pour capter l'eau à l'issue de pluie, par exemple, mais pour un fonctionnement plus efficace, certaines plantes, des arbres également, du coup, et des herbacées vont développer un système racinaire qui peut aller jusqu'à plusieurs mètres de profondeur pour récupérer de l'eau qui se trouve dans la terre. Donc, certaines plantes vont aussi conserver de l'eau dans des organes de réserve. Parmi elles, on connaît les plantes grasses qui vont, comme les sédums ou les orpins, qui vont conserver cette eau dans leurs feuilles. Certaines vont conserver l'eau dans les tiges. C'est le cas de certains cactus, par exemple. Et parmi les organes de réserve, pour passer la mauvaise saison, alors la mauvaise saison, c'est une période où il y a un manque d'eau, et ça n'est pas forcément l'été, l'hiver aussi. Donc la présence de bulbes peut être une façon de résister à un manque d'eau, donc aussi bien à la sécheresse qu'à un gel prolongé, en fait. Pour terminer, il existe également des adaptations génétiques dont les études sont beaucoup plus récentes. L'INRAE, par exemple, en 2021, dans le projet Épitré, a étudié des peuplements de frênes et a montré que des arbres de plusieurs centaines d'années avaient des branches qui portaient ce qu'on appelle un épigénome différent d'une année sur l'autre, c'est-à-dire une réaction aux conditions climatiques qui vont faire qu'il y a une légère modification dans la constitution des branches, dans la production de protéines et de matières. Et donc comme ça, on a chaque année un arbre qui est en fait une mosaïque d'épigénomes, de réactions à des stimuli ou à des stress environnementaux.
Jérôme Garcia pour le Conservatoire National Botanique de Pyrénées et Midi-Pyrénées. Jérôme Garcia qui anime d'ailleurs l'émission Urbaflore que vous pouvez retrouver en podcast sur le site cfmradio.fr. Ce mag aussi, vous pouvez le retrouver en podcast. Par ailleurs, il sera rediffusé à 17h et à 21h. Là, c'est les infos.